I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Je voulais me jeter à l'eau, on était sur un bateau et puis j'étais je vais pas dans l'eau. Elle me dit écoute ta première pensée, faut toujours écouter sa première pensée comme les enfants. Les enfants ils écoutent toujours leur première pensée.
Bienvenue sur Nouvelle École et je n'ai plus de voix mais j'ai une super invitée. Shirley Soignon est comédienne, humoriste, productrice. Elle est drôle et surtout extrêmement brillante. Je voulais absolument l'inviter dans Nouvelle École pour parler de sujets profonds. On parle d'instant présent, de s'écouter, de liberté, de pourquoi le stand-up c'est comme la vie. Je suis trop content d'avoir rencontré Shirley. Allez la voir à la nouvelle scène. Et aussi, abonnez-vous à Nouvelle École partout, partout, partout. Moi, je vais acheter du miel avant de décéder. Bonne écoute!
Je suis donc avec Shirley Soignon. Salut Shirley.
Salut.
Shirley, je te présente rapidement parce qu'en fait, tu fais quand même plein de trucs, mais on va dire que. Est-ce que j'ai le droit de dire que t'es comédienne?
Oui, bah t'as le droit. Oui.
Humoriste? Non, mais tu vois, ça, parce que tu fais beaucoup de choses, en fait.
Ouais.
Et je pense qu'on veut toujours un peu réduire les gens à aller ça. Ouais. Mais en fait.
Moi, j'ai lâché l'affaire avec la case.
Ouais.
J'en ai plein et où tu peux tout dire.
Donc, t'es comédienne, humoriste, tu chantes aussi. Qu'est-ce que tu fais d'autre?
Je produis.
Tu produis, tu as ta boîte de production.
Ouais, j'ai ma boîte de production.
Absolument.
Et non, mais c'est pas mal, je crois. Hein.
C'est
après,
déjà...
on va vomir après.
C'est déjà pas mal, ouais.
Je sais pas, je pense que je fais plein de choses, mais après, pour mon plaisir personnel aussi, mais qui me prennent vraiment beaucoup de temps dans ma vie, je m'en rends compte, tu vois. Genre la peinture ou la batterie. Ou
tu joues de la batterie?
Ouais, mais où des fois, je vais passer genre 4 heures dans ma journée entre deux textes que je devrais écrire, quoi, tu vois.
Mais t'as une maison?
Alors, ça, tu ouais, j'ai une maison okay. À la campagne, en Belgique, ouais. C'était un peu mon rêve d'avoir une baraque pour pouvoir faire de la musique, justement.
C'est vraiment l'instrument le moins pratique, quoi, là.
Exactement. Et donc, moi, j'ai besoin d'espace de pouvoir faire du bruit, quoi.
Donc, comme je te disais tout à l'heure, je t'ai découvert un peu via Navo, et ensuite, il y a Adrien Méniel qui est venu me dire, donc, salut à eux s'ils écoutent.
Bisous, les gars.
Qui est venu me dire, tu connais Shirley, donc je suis allé voir, et j'ai écouté aussi ton interview dans le Café du Lossette, et plein d'autres d'ailleurs, mais d'ailleurs, je trouve que la personne qui fait ce podcast fait des bonnes interviews. Je
ouais, bah, Louis Dubourg écoute aussi.
Voilà, tu nous dédicace.
Écoutes. Dédicace, hein.
Et
ah, c'est vrai qu'il assure, parce que pardon, je coupe.
Non, vas-y, c'est un podcast où moi je coupe beaucoup, donc n'hésite pas à me couper.
D'accord, vraiment, ok, on va se couper,
c'est
un battle de qui coupe le plus la parole. Donc non, mais Louis Dubourg, c'est un jeune humoriste de stand-up que moi j'ai rencontré il y a à peu près un an et demi. Et en fait, il a vite commencé à côtoyer tout le monde dans le milieu et avoir, je sais pas, comme cette gentillesse, cette bonté que tout le monde dit, il est génial ce mec, il est génial et tout. Et donc, il avait un peu cette fibre déjà de parler avec tout le monde, tu vois, n'importe quel groupe, genre de personne. Et donc, tu l'entends dans ses podcasts, quoi. Il est très sensible à l'autre, et peu importe son milieu social ou ce qui est pas forcément évident dans l'humour, en fait.
Pourquoi?
Ben, je trouve qu'il y a beaucoup de il n'y a pas autant de bienveillance que ça. Et Louis Dubourg est un mec hyper bienveillant, quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de philosophie de vie. Il est très bienveillant, tu vois, vis-à-vis de l'autre. Voilà, et ça s'entend dans ses podcasts, j'aime beaucoup ce mec.
Et du coup, il a la bonne technique d'avoir fait un podcast un peu comme moi pour rencontrer tous les gens qu'il avait envie de rencontrer.
Ouais, et d'ailleurs, quand j'ai écouté ton podcast, j'ai dit, tiens, c'est rigolo, vous avez la même intonation, la même musique. Bon, je pense qu'on fait pas un podcast par hasard, s'intéresser aux autres comme ça, c'est l'effet miroir.
C'est marrant que tu dises la même musique, ça fait deux fois que tu dis ça. Tu parlais de.
Ah,
de,
ouais, ça c'est.
La musique de la voix, c'est ça?
Ah ouais, j'ai dit musique quand?
Je sais pas, on parlait de quelqu'un tout à l'heure, t'as dit, ah oui, la musique. Ah, on parlait de Joseph Roussin.
Ouais, oui, c'est
tu
vrai.
Tu disais, j'aime bien sa musique.
Oui, oui. Parce que c'est les gens ont une musique, quoi. On parle d'univers, des fois, je trouve ça un peu bizarre, réducteur, genre il a un super univers. Et ouais, c'est vrai, je comprends pas trop cette expression. Donc je parle de musique. La mélodie des gens, tu sais, une façon de parler, de. Tu vois, là, par exemple, je suis.
Ouais, voilà, t'es comme sur France Culture
jour,
un peu, là.
Quoi. Ouais, c'est ma musique du jour.
Je t'avais entendu, en fait, dans le Café du Dossette, ce qui m'avait vachement interpellé, c'est que tu parlais beaucoup de moments présents. Mm. Et il y a un moment, dans une autre interview qui n'a rien à voir, dont j'ai oublié le nom, désolé, tu dis que tu recommandes un livre, et le livre que tu recommandes, c'est Le pouvoir de l'instant présent, de Eckhart Tolle. Mm-hmm. Et c'était marrant que tu recommandes ce livre. C'est un livre que j'ai lu il y a peut-être un an et demi, deux ans, à un moment où moi, j'étais. J'étais vraiment, vraiment en dépression totale. Et c'est un livre qui m'avait trop marqué. Quoi. Je l'avais lu, j'avais pris comme une énorme baffe. Et après, je l'avais voulu l'offrir à tout le monde, puis je l'ai recommandé plein de fois. Et ça je trouvais ça intéressant que tu parles de ce bouquin. Et en fait, je voulais te demander pourquoi tu avais recommandé ce bouquin et à quel moment t'étais entré en contact avec ce livre.
Écoute, tu crois que tous les gens qui sont rentrés en contact avec ce bouquin étaient dépressifs quand ils sont tombés en contact, genre c'est comme une lumière, genre une bible quoi de dépressif.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que tous les mêmes Kian en parle dans le podcast du Café Holo 7 juste après? Et on en avait déjà parlé tous les deux sur le fait que on l'avait découvert quand on était plus bas, tu vois. Et que je me rappelle plus vraiment comment je l'ai trouvé ce bouquin, je sais plus. Parce que je sais que c'était vraiment genre oh, oui, c'est tout ce qu'il dit est évident. C'est-à-dire qu'en fait, c'était le premier bouquin que je lisais sur le, tu vois, l'estime de soi, enfin, toutes ces conneries, la spiritualité, etc.
C'était ton premier bouquin de self-help, un peu, c'est ça?
Ouais, ou le premier bouquin auquel j'étais là, waouh, ok, c'est simple ce qu'il dit, et puis ça me parle directement, j'ai pas besoin de cérébraliser la chose pour la comprendre. C'est juste là en moi. Et puis, c'est une notion de vie, de l'instant présent, en fait, qui nous rappelle à ce qu'on faisait instinctivement quand on était enfant. Tu vois, de vivre là, le maintenant, de jouer, de s'amuser, tu vois, de pas penser, on n'avait pas les factures, on n'avait pas de futur à penser, quoi. Et donc, ça nous rappelle des choses qu'on connaît déjà, en fait. C'est pas des trucs qu'on doit mettre dans notre disque dur, quoi, tu vois.
C'est des trucs qui sont déjà là, mais qu'on a oublié, c'est ça?
C'est ça, en fait, c'est une piqûre de rappel, ce bouquin, je trouve.
Toi, qu'est-ce qui fait que quand t'as lu ça, en fait, il y avait une période où t'avais oublié ces trucs-là?
Bah ouais, tout depuis l'adolescence, je crois. À partir de l'adolescence, je pense que j'ai commencé à vraiment effacer au fur et à mesure la naïveté de l'enfance, quoi.
Parce que le côté humoriste, ça remonte à loin. Je sais que tu, quand tu étais petite, tu faisais déjà des sketchs, même quand tu dis que tu faisais payer ta famille pour les voir, et que t'étais déjà un peu productrice aussi.
Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure des interviews, effectivement, que j'étais une prod. Mais quelle était la question de base?
Non, la question, c'était... En fait, comment maintenant, du coup, tu l'appliques
Comment j'applique ce bouquin?
Ouais, ou comment, disons, c'est quoi ton rapport au temps, en fait?
Il est compliqué, hein, parce que il y a plein de choses. Je pense que déjà, j'aime bien le déformer, le temps, m'amuser avec. Il y en a qui sont... C'est-à-dire que, tu vois, je suis productrice et en même temps, je suis artiste. Je procrastine tout le temps sur mes textes, sur comment je vais écrire, quand je vais écrire... Toujours des très bonnes idées, mais vraiment, je peux rester pendant des mois et même un an ou deux avec une vanne nulle qui est pas bien travaillée parce que je procrastine sur des choses vraiment de fort. Et à côté de ça, j'ai une société de production que j'ai depuis presque 4 ans et qui fonctionne, tu vois. On se demande comment vraiment quand tu vois ma vie. Et donc, il y a toutes ces... Je veux dire, quand tu as une société, le temps assez bien organisé, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de quand même... Moi, je fais des rétro-planning sur 2-3 ans, quoi. Pour parler aux banques, pour parler des financeurs, etc. Et à côté de ça, je sais pas du tout de quoi est fait dans 2 secondes, pour moi, humainement. Tu vois, il y a plein de distorsions.
Mais ça t'inquiète encore?
Comment?
Ça t'inquiète encore?
Je crois que moi, là, je commence à me rendre compte que ce qui m'inquiète vraiment, c'est la mort, clairement. Tu vois, le truc où tu es vraiment, vraiment la mort.
La mort de toi?
Ouais, la mort de moi. Vraiment, pas des autres. C'est horrible. Hein. Je m'en suis rendu compte à quel point j'étais égoïste à ce point-là. Parce que vraiment, j'ai perdu des gens dans ma vie, ça m'a rendu très triste. Mais j'ai compris que c'était la vie, quoi. Enfin, tu vois, je vais pas faire à chaque fois, mon Dieu. C'est la vie, en fait. Des fois, c'est relou parce que c'est dans des circonstances où t'es, ah, c'est pas cool. T'es un peu fâché contre la personne, ce genre de choses, mais, en l'occurrence, ma mort, cette expérience-là, c'est comme si on me dit, va, demain, on va faire du parachute, quoi, un soir en parachute. C'est cette expérience de, je sais pas ce que c'est, mais en même temps, c'est excitant, en même temps, pas du tout, tu vois. Mmh. Donc, mon rapport au temps, il est lié à ça. Il est lié au fait que parfois, je suis totalement angoissée par cette mort, donc je vais faire 15 000 trucs d'un coup. Mais vraiment 15 000, j'ai plein d'idées, plein de trucs, je vais les noter, j'ai, tu vois, mes cahiers en disant Rain Man, tu vois, il y en a vraiment de partout. Et puis, d'un autre côté, j'aime beaucoup être dans cet instant présent, effectivement, la méditation.
Tu médites ?
Ouais, je médite, pas de façon quotidienne, encore une fois, puisque je suis pas quelqu'un de stable, en fait, dans ce... Non, mais c'est vrai, c'est le mot, même s'il est un peu entendu, connoté négativement. C'est pas, moi, je l'entends pas comme ça. Pas stable dans l'idée de... Tu vois, du lundi au dimanche, ma vie est pareille tout le temps, quoi. J'ai mon week-end, mais je sais pas ce que ça veut dire vraiment. Des fois, on me dit c'est des vacances. Je dis quelles vacances de qui, de quoi. Je comprends pas ces notions-là vraiment, quoi. Tu vois, je fais semblant de capter parce qu'on me l'a appris à l'école, tu vois. Donc le rapport au temps, c'est quelque chose que qui m'intéresse. Enfin, c'est toute ma vie, quoi. C'est toute ma vie.
Parce que moi, en fait, il y a c'est un truc sur lequel je me pose beaucoup de questions parce que justement, j'ai commencé à lire tous ces bouquins. En fait, je me suis rendu compte à un moment que j'avais beaucoup de mal à être dans le moment présent et que j'étais toujours soit en train de penser à ce que j'avais mal fait ou fait avant, soit en train de me dire « oulala, ça va vraiment mal se passer ensuite ». Tu vois.
Ouais, bien sûr.
Et même au quotidien, j'ai du mal à rien faire, par exemple. Tu vois. Ou à juste me dire « c'est pas grave, je fais rien ». Et tu vois ce que je veux dire ?
Ouais, je comprends. Ouais.
C'est ça, c'est pour ça que je te demandais, en fait, comment tu... est-ce que toi, il y a des choses que tu essaies d'appliquer dans ta vie pour être plus dans le moment présent, tu vois ?
Je crois que ce que j'essaie d'expliquer en ce moment, c'est d'arrêter d'essayer de m'appliquer des trucs. Parce que ça, c'est ce qui fait que je n'arrive jamais à le faire, en fait.
T'as appliqué quoi par le...
Comment ?
T'as appliqué des trucs par le passé
J'ai appliqué des choses par le passé.
Ouais.
Oui, j'ai appliqué des choses que je me suis dites par le passé. Ce que je veux dire, c'est que souvent, quand tu dis, bon, par exemple, moi, j'aime beaucoup fumer de la weed. Et si je passe mon temps à me dire, bon, allez, faut que j'arrête pendant 3 semaines, dès demain, je le ferai jamais, tu vois. Alors que à partir du moment où je me pose aucune question sur rien, je peux rester pendant un mois sans fumer et fumer pendant un, tu vois, enfin, j'ai pas de vraiment, il y a pas cette stabilité ni de recherche d'objectifs parce que à partir du moment où t'es dans ce genre de choses, c'est déjà dans le futur. C'est d'ailleurs le bouquin,
en fait. Et tu relâches, en fait, c'est ça?
Lâcher prise sur qui on est, ce qu'on doit être. C'est un peu tout l'objet du spectacle que je fais actuellement. Que j'ai appelé Monsieur Shirley parce que justement, tu vois, les codes, le fait de mettre des étiquettes sur les choses, etc. Moi, on m'a tout le temps pris pour un mec pour plein de raisons que je peux comprendre, d'autres pas du tout, tu vois. Bon, c'est la perception.
C'est quoi un mec en plus?
Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est toute la question. Et toute la réponse que j'ai eue dans ma vie, je le raconte, je le lis brièvement parce que c'est quand même la fin du spectacle, faut pas que je m'auto-spoil, tu vois. Mais en soi, moi, j'ai toujours été lesbienne et j'ai jamais pensé à coucher avec un mec. Et genre, j'ai 31 ans et à 28 ans, donc il n'y a pas si longtemps, je rencontre un mec, on a un coup de foudre et tout. Et ça détruit toute ma conception du temps, justement, et de qui on est. Parce que moi, jamais j'aurais imaginé coucher avec un mec dans ma vie. Et c'est comme, enfin, je sais pas si t'as déjà couché avec un mec, mais si c'est pas le cas, donc tu me fais non la tête, donc c'est pas le cas. Si ça t'arrive un jour, vraiment, bon courage, parce que en vérité, c'est pas une question de... Sexualité, c'est une question de tout ce que tu t'es
d'identité.
Formaté. Tu t'es formaté en fait à quelque chose. Et je pensais pas être formaté parce que je croyais que j'étais homosexuel, donc couvert d'esprit. Tu vois, je pensais vraiment que ça m'arrivait dans ma vie. Je le gérais de ouf et je l'ai très mal géré, vécu.
Comment ça, tu l'as mal vécu?
Ben, je l'ai mal vécu parce que ça, c'est comme si j'avais perdu tout mon filet de. Je sais pas comment expliquer. En fait, je me suis rendu compte que l'être humain social avait un filet. Tu vois, il y a un fond en fait, et que si t'as pas ce fond. Ben, c'est le néant. C'est un lâcher prise sur le vraiment. Et il n'y a plus de temps. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de toi. Il n'y a plus d'identité. Il n'y a plus de Shirley aime les frites ou. Il n'y a plus de rien. Il n'y a rien. À partir du moment où j'ai couché avec un mec, je n'avais plus d'identité.
Tu veux dire, ça a explosé tous les cadres que tu avais créés.
Cette tub a tout explosé. Pour que tu entendes bien le. Ça. Ça a vraiment genre, pouf, fusion. alignement des astres et tout plus d'astres après, tu vois.
Et ça t'a déprimé, enfin ça t'a stressé.
Ouais, et donc je suis passé par une phase de dépression que j'imaginais pas, je pensais pas, mais tout ça tu le vois après en fait, tu le vis, tu le sens, tu te rends pas compte que t'es en train d'être complètement dépressif parce que dans tes actions, dans ta façon
et
de réfléchir.
Le mec le sait qu'il a été un élément perturbateur comme ça.
Je pense qu'il peut pas se rendre compte parce qu'il peut pas, il a pas mon expérience de la vie, et puis lui il est hétérosexuel, donc. C'est d'ailleurs un échange qu'on a eu qui était assez incroyable, c'est qu'il m'a quand même dit mais ça va, enfin je comprends pas ce qui est aussi perturbant que ça. C'est normal de coucher avec un homme en fait. Et j'étais là ah, ok, donc toi on est sur un autre niveau encore, on n'est pas dans le même monde quoi. Donc, en tout cas, dans mon monde, c'était complètement, il y avait plus de monde. Et c'est hyper intéressant de se rendre compte que aujourd'hui, des fois, on fait des belles phrases sur oui, on joue un rôle dans la vie, etc. Maintenant, je sais vraiment qu'on joue un rôle dans la vie et que on s'auto-convainc de qui on est.
Donc, on porte un masque, c'est ça?
On porte le masque. Là, je l'ai vu, le mien. Je l'ai vraiment vu. Ce qui est tombé, c'est cassé. Je suis obligé de le recoller et tout. Donc, j'en ai refait un autre, tu vois. Depuis, mais.
Vous voulez dire qu'on est obligé d'avoir un masque quoi qu'il arrive dans son construire.
Ouais, non, sinon vraiment j'aurais fini à l'HP.
Parce que tu sais ce que tu me dis, ça me fait penser à, tu sais, Jim Carrey et ses phrases récentes, tu les as vues. Et bah justement, il est là-dedans. En fait, il parle d'avoir zéro masque, en fait, c'est ça. Et du coup, d'être. Il dit qu'à la fois il est tout, mais en même temps, t'as l'impression qu'il est rien, c'est ça un peu.
C'est très dur à dire.
Ça a l'air flippant, moi, je trouve.
C'est très flippant.
Surtout, je le vois sur le plateau, je sais pas. Il a l'air un peu perché, quoi.
Ouais. C'est vrai que moi, il y a plein de potes, Navo notamment, on en parlait tout à l'heure. Avant le podcast, mais Navo, il a parlé de ce documentaire, il était super énervé, tu vois. Alors, il a vu Jim Carrey, il dit, mais moi, un mec comme ça sur un plateau, jamais, quoi. Tu vois.
Pourquoi?
Jamais je peux. Ça l'énervait de se dire, t'as un film avec je sais pas combien de comédiens, une équipe de ouf et tout ça, et t'as un gars que tu dois gérer.
Ah oui.
Qui est juste relou, quoi, tu vois. Qui est là, non, Jim n'est pas là, quoi. C'est relou. Et moi, je l'ai regardé le documentaire, et vraiment, j'étais là, c'est tellement marrant ce qu'il fait. Et c'est tellement, enfin, je le comprends tellement et je comprends tout le monde en fait.
Comment s'appelle le documentaire déjà?
Jim and Andy.
Ouais.
Ouais. Et c'est ouf, enfin, ouais. Moi, je trouve ça très drôle ce qu'il a fait et en même temps, je comprends que ce soit absolument chiant pour des gens qui sont dans un autre monde.
Oui.
Tu vois.
Du coup, t'as reconstruit quoi en fait?
Comment? J'ai reconstruit quoi? Ouais. Ouais, ben, j'ai reconstruit une identité quoi pour qui s'appelle Monsieur Shirley maintenant. Ouais. Mais. Ouais, en fait, si tu veux, j'ai pas vraiment changé mes codes que j'avais avant cette expérience. C'est plutôt que j'ai conscience de mes codes maintenant, tu vois.
Ça t'a donné envie de plus déconstruire ou d'arrêter de déconstruire, justement?
Non, j'ai arrêté de déconstruire. Non, j'ai arrêté. J'ai essayé, hein, j'ai vraiment tout cassé à un moment donné, tu vois. J'étais là, ouais, viens, on sort ensemble et tout. Et vraiment, j'étais trop loin, j'étais là, non, j'y arrive pas. C'est pas moi, en fait, tu vois. Mais c'était vraiment au-delà du fait que. C'est-à-dire que bon après c'est aussi la personne en soi c'était pas la personne quoi tu vois c'était pas une question de sexe mais il y avait aussi cette heure de c'est pas moi être avec un gars énergétiquement dans la même pièce tous les jours c'est pas ouais tu vois il va me dire j'ai faim je vais dire moi aussi tu vois on va être en galère
t'essayais activement de déconstruire pour voir jusqu'où ça pouvait aller
ouais j'ai trouvé le fond j'ai trouvé mon fond
ok tu crois parce que moi je te demandais tout ça parce que justement, je suis sûr que j'ai des choses comme ça dont j'ai pas conscience.
Ouais. Tout le monde, ouais, bien sûr.
Tu vois. Et alors, est-ce qu'il faut aller déconstruire, enlever tous les... Parce que moi, j'ai plein de réflexes de base, quoi. Je vais avoir plein de réactions par rapport à des situations ou des gens qui vont être des réactions qui ont été construites, en fait.
Bien sûr.
Alors, je peux me passer ma vie à me dire, bon, je vais tout déconstruire. Et est-ce que c'est bien ou est-ce que je vais juste finir en hôpital psychiatrique parce que je ne saurais plus qui je suis?
Mais c'est ça, pour moi, c'est l'expérience. C'est cool de réfléchir à plein de choses, puis il faut aussi agir sur sa vie, puis voir. Moi, je sais que je suis assez taquine avec moi-même, donc j'aime bien aller tenter comme ça des aventures où je sais pas où ça va me mener, parce que déjà, de base, dans cette expérience dont je te parle, moi, j'étais quand même en couple. Donc déjà, j'ai enfreint une règle, tu vois, qui est de pas aller voir ailleurs quand t'es en couple. Mais c'était pour moi une vraie expérience. Une vraie chose de l'ordre de l'expérience. C'est comme si j'avais caché que j'allais à Disney. Okay, pour moi, mon couple, tu vois. J'avais pas dit que ce week-end-là, j'allais à Disney. Parce que c'est un truc, voilà, je m'osais faire et j'essayais de voir ce que ça pouvait être. Sans imaginer une tromperie là-dedans. Tu vois, c'est vraiment une idée d'expérience avec soi-même, quoi. Je suis très taquine avec moi-même. Parce que c'est aussi, je pense, quand t'es humoriste, je crois qu'inconsciemment, des fois, je me demande à quel point notre métier influence nos actions dans la vie.
Tu veux dire que t'es plus taquine avec toi-même depuis que t'es humoriste?
Ouais, mais comme j'ai toujours été presque humoriste, ouais. Je crois que j'ai toujours été comme, et je me dis à quel point vraiment, ma vie, je l'influence. Enfin, je fais des choix pour écrire des trucs marrants derrière, tu vois.
Pourquoi? Parce que tu dois aller creuser tes insécurités, les choses comme ça, pour pouvoir ensuite avoir du bon matériel.
Ouais, je suis mon propre cobaye. Ouais, 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 c'est intéressant. Mais voilà, maintenant, je vois les limites de cette expérience aussi.
Parce qu'il y a un gros côté. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand je regarde ce que tu fais et j'ai vu ton parcours, j'ai l'impression qu'il y a tout un thème de recherche de liberté aussi, et que t'es toujours là. Par exemple,
j'ai tatoué sur mon bras.
T'as tatoué liberté sur ton droit, c'est moi.
Free.
Tout à l'heure, tu me disais que t'es nomade actuellement,
ouais.
Que tu vis dans des, tu vis dans une baraque en Belgique et que tu fais des allers-retours, etc.
Ouais, comme je joue à Paris, ouais.
C'était une démarche consciente de, encore une fois, de pousser la, voir jusqu'où tu pouvais être libre.
C'est mon problème, quoi. C'est à chaque fois, à chaque fois, je me dis, je réfléchis après. J'ai pas de permis, par exemple. Donc, normalement, t'es pas censé aller à la campagne quand t'as pas de permis, alors que tu joues à Paris, tu vois. Je me suis engagé, j'ai signé un contrat pour jouer à Paris tous les week-ends, et je décide à ce moment-là de partir vivre à 3 heures de Paris. Parce que ma copine décide d'aller faire ses études là-bas, elle reprend ses études, elle est en pleine campagne. Je suis aussi très bien avec cette personne, donc j'ai besoin aussi de cet équilibre avec elle, de la voir, voilà, de m'apporter un peu de bonheur. Et en même temps, j'avais envie de vivre à la campagne, donc elle y était. Je dis, ah bah, tout match, tu vois. Et je réfléchis avec l'affect, plus qu'avec le rationnel, quoi. Donc me voilà effectivement arrivé à la campagne, quoi.
Tu voulais vivre à la campagne pour c'est pour le boulot?
Ouais, enfin, parce que j'en avais marre de Paris, quoi. J'en avais marre de Paris, donc je me suis dit, bon, en fait, je suis très dans l'instant, ouais, pour le coup. C'est vraiment genre, ah, je crois que j'en ai marre, je me casse, quoi. Il y a pas de... Et là où tout le monde te dit, mais attends, il y a ton métier, machin. Et je me dis, ouais, mais mon métier, je vais pas bien le faire si je suis pas bien avec moi-même, déjà, tu vois. Donc, c'est vrai que ça pousse à faire, à s'écouter en permanence. S'écouter, quand t'es humoriste et tout. Mais moi, je pense qu'il y a plein de choses qui font que j'en suis arrivé à cette façon de réfléchir, qui est très sauvage, en fait, tu vois. Par rapport à une société, à une organisation, à des amis.
Ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a un côté, tu t'es extrait de la matrice.
Ouais, j'essaye en fait, mais je rigole en fait, parce que je peux pas vraiment m'extraire de la matrice.
Ah, c'est justement ça, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure.
Tu vois,
c'est quand tu t'extrais trop, il y a...
Ouais, donc je dose quoi. Mais c'est comme le fait d'être humoriste et productrice. C'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que productrice, c'est le côté terre-à-terre de ma personne et l'artiste, tu vois. Celle qui rêve, qui pense à plein, qui imagine, qui n'a pas de limite dans... Moi, j'ai... La productrice, elle réfléchit pas du tout pareil que l'artiste, vraiment. Je suis la même personne, tu vois, mais je ne réfléchis pas du tout pareil pour le même projet, tu vois. Genre, j'ai deux avis contraires des fois.
Tu pouvais pas être en CDI, toi?
Non, mais non, j'ai essayé, ça a pas duré longtemps. Je fais, ah, ça va être chaud. Non, non, le fait d'être, c'est pas le fait d'être dans un bureau tous les jours, machin. C'est l'intention qu'il y a dedans, quoi. C'est les gens, la tristesse des gens. C'est, tu vois, c'est l'énergie qu'on t'apporte, quoi. C'est pas le fait du tout d'être un bureau fermé. C'est pas ça. Je peux vraiment, j'ai ce côté, moi, très laborieux du travail. Des fois, je peux être enfermé dans mon bureau pendant des jours et des jours, tu vois. C'est pas du tout le problème d'être enfermé dans un bureau. C'est l'énergie des gens qui sont là parce qu'ils doivent avoir de l'argent, quoi, tu vois. Enfin, ce truc de pas faire un truc qu'on aime, quoi, tout simplement. Ça me déprime.
Toi, t'as su dès le début qu'il fallait que tu fasses un truc que t'aimes?
J'avais pas le choix. Puis, tu sais, quand, je sais pas, est-ce que j'allais te dire, justement, tu prends du recul sur qui t'es et tout. Moi, la vie, elle m'a un peu obligée, quoi. C'est-à-dire de voir toutes mes expériences de la vie font que j'étais obligée, à un moment donné, de voir vraiment mon reflet dans le miroir. C'est-à-dire, on parle de ce truc-là, mais là, j'ai vraiment de voir qui tu es. En l'occurrence, le fait d'être une femme, le fait d'être noire, le fait d'être humoriste, le fait d'avoir des locks.
Mais c'est marrant, t'es un peu le pôle inverse de l'homme blanc cisgenre,
ouais,
d'école de commerce.
Totalement l'inverse. Moi. On est Ying et le Yang.
C'est ça. D'ailleurs, il y a, t'as une phrase dans tes sketchs où tu dis que ta mère t'a dit que il fallait choisir parce que tu pouvais pas tous les avoir.
Ouais. Elle m'a dit enlève noir. Mais ouais, effectivement, le fait d'avoir tout ça, les expériences de la vie font que, puis quand t'es artiste, tu rencontres plein de gens, t'as des discussions, des réflexions, tu finis par te rendre compte de ce que tu représentes dans le monde. Déjà, tu vois, je me suis rendu compte, hein, on a un maillot, en fait.
Je suis pas sûr que le micro t'entende très bien.
Ah, dis-moi.
Là, il t'entend bien, là.
C'est bon, ok. Tu vois, le fait de représenter tout ça, c'est avoir un maillot, quoi, faire partie d'une équipe. Et j'étais pas au courant. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à comprendre que je fais partie d'une équipe, quoi. Une équipe choisie, c'est pas du tout choisi, hein, c'est arbitraire, quoi, par rapport à ce que tu sors. Comment tu sors du vagin de ta daronne, quoi, tu vois. C'est après, hop, tu vas dans une équipe directe, quoi. Mmh. Et ça, tu le sais pas.
Ça, t'as mis longtemps à le comprendre.
Ouais, de ouf. Mais vraiment, alors que... Parce que ma famille est métissée, quoi. J'ai une grand-mère blanche et un grand-père noir. Ça fait que, pour moi, je comprenais pas... Tu vois, j'étais pas enfermé dans quelque chose. C'est la société qui m'a montré qu'après, il y avait des trucs qui étaient enfermants. Une culture enfermante, quoi. J'ai cette double culture-là. Le fait d'être aussi homosexuel... Je pense que mon père, il m'a tellement cassé les couilles à me dire, il faut être, tu vois... il faut être plus fort que les autres, il faut en faire plus dans cette société, ma fille, il faut se battre, en plus il y a une femme, puis en plus t'en rajoutes derrière, machin, va falloir te battre plus. Ça m'a tellement saoulé qu'au bout d'un moment, en fait, ça a été ma force et en même temps, quelque part, ma faiblesse, c'est-à-dire de devoir à la fois dépasser ce truc, parce que tu sais, c'est à la fois motivant et même temps destructeur, cette phrase, tu vois. Il faut que tu dépasses. Faut que tu...
Ah ouais, je vois très bien de quoi tu parles.
Oh là là, mon Dieu, mais... Donc voilà, c'est avec ce genre de préceptes que tu joues pour te rendre compte que t'es dans des formatés, quoi. Notamment par les parents aussi, tu vois.
Parce que t'as fait du sport de haut niveau aussi à un moment.
Ouais. En fait, j'ai fait 10 ans de basket et j'ai fait un an, en fait, aux États-Unis. Et c'est pas du haut niveau dans le sens où j'ai pas fait l'université, mais j'ai été accepté dans l'université. Mais j'ai refusé au moment donné où j'étais accepté à l'université de Houston d'y aller. Donc j'ai pas fait le haut niveau, j'ai fait du semi-pro.
Pourquoi t'as refusé d'y aller?
Ben écoute, c'est encore une fois l'instant présent. Hein. À ce moment-là, j'étais là, ouais, je crois que j'en ai marre.
En fait, t'arrives à t'écouter depuis toujours?
Ouais, mais c'est chiant, vraiment. C'est très chiant.
Parce que c'est bien, non?
C'est bien, mais je veux dire, je suis pas dosé, quoi. C'est-à-dire, quand une meuf, je peux bien, je fais bon, allez, je m'en vais. Tu vois, mais vraiment du jour au lendemain, tu vois, j'exagère.
Donc, si t'es à une soirée avec tes potes et que d'un seul coup ça va pas, tu vas partir direct, c'est ça?
Ouais. Et souvent, je veux dire, quelqu'un me ramène. J'impose quelque chose un peu, tu vois.
Mais est-ce que c'est mal? Parce que j'ai l'impression que parfois, moi, j'ai l'impression d'avoir mis que je me suis beaucoup écouté quand j'étais enfant jusqu'à ado, qu'ensuite j'ai complètement mis sur pause et que là, par la force des événements qui allaient me faire mourir il y a un an, quoi,
ouais,
je me suis dit, c'est fini, il faut que tu écoutes ton ventre.
Bah, t'as pas le choix, en fait.
Ouais.
T'as juste pas le choix. Ouais.
Mais tu peux le mettre sur off, en fait, ce bouton. Et passer ta vie en pilote automatique.
Bah, j'arrive plus, moi. Enfin, j'arrive pas. C'est même pas j'arrive plus, c'est je crois que je n'y ai jamais. J'ai jamais réussi à faire ça, en fait. Non. J'ai jamais réussi à faire ça de façon saine, quoi. En étant bien derrière ça, quoi. Tu peux pas mettre off, tu peux pas te mettre en mode sourd et muet, c'est ça que tu dis. C'est-à-dire ne pas s'écouter, quoi.
Ouais, ne pas s'écouter, ouais.
C'est compliqué, hein. Une fois que tu l'as fait.
Bah, une fois
que tu. Une fois que la porte est ouverte, elle est ouverte, quoi. Ce qui est le plus dur, c'est trouver la clé, quoi. Mais une fois que t'as trouvé la clé, c'est.
Et toi, la porte, elle a toujours été ouverte, du coup?
Bah, je crois qu'elle a été défoncée. Tu vois. C'est ça, en fait. C'est que j'ai même pas cherché la clé, machin. C'est que, tu sais, on parlait de fait d'être nomade. C'est que mes parents ont été séparés depuis mon enfance et que j'ai beaucoup voyagé. Donc, j'ai jamais été dans le même endroit. J'ai jamais été sédentaire. Tous les ans, j'ai bougé de ville, de pays, même parfois. Donc, ce qui fait que déjà, c'est pas mes réflexes d'être sédentaire dans la vie, tu vois. Donc, le fait de pas être sédentaire, ça change toute ta façon de penser. T'es toujours en mouvement. Toujours en mouvement. Il n'y a pas de.
Ça change quoi?
Ça change tout. Il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de crainte du lendemain. Parce que justement, il n'y a pas de lendemain, en fait. Tu vois, tu penses déjà maintenant, t'es là. Ouais, bah, c'est pas chez moi, de toute façon. Donc, tu vois, je ne sais pas comment l'expliquer. Il n'y a pas cette. Et en même temps, je suis quelqu'un de très ancré, très dans le sol. Je ne suis pas très aérienne. Je n'aime pas tout ce qui est.
Tu crois que c'était positif pour toi, sur ta construction, le fait de toujours bouger, le fait de devoir toujours t'adapter?
Ouais, mais tu te rends compte que c'est un conditionnement de l'expérience. Enfin, tu vois, je l'ai pas choisi quand j'étais enfant. Donc en fait, c'est quelque chose que des fois j'ai envie d'arrêter, que je n'arrive pas à arrêter. Là où je te dis, tout ce qui est une qualité est un défaut de toute façon. Tout ce qui est positif et négatif. Ça fait...
Ah ben, je suis content que tu dises ça. Je dis toujours aux gens, j'ai les défauts de mes qualités. J'ai les qualités de mes défauts.
Bien sûr, expression, bien sûr. Des fois, on comprend pas bien ce qu'on dit et l'expérience, ouais. Et là, c'est que tout ce qui est positif est négatif, quoi.
Je t'entendais dire, je crois, dans le, je sais plus quelle interview, que la liberté, la souffrance était intimement liée à la liberté. Comme s'il fallait souffrir pour être libre.
Ouais. Ça me fait chier de dire ce genre de phrases qui sont un peu genre, tu vois.
Non, mais tu crois?
Bah oui, je crois ce que je dis, malheureusement. J'aurais pu changer d'avis, mais pour le coup, non. Alors, peut-être pas dans cette vie, quoi, tu vois. Peut-être pas une souffrance dans cette vie, parce que je voyais des gens. Je connais une personne, vraiment, intimement, une personne qui est comme ça pour moi, c'est mon cousin. Je pense qu'il a souffert vraiment fort dans une vie pour être aussi pisse dans celle-là, tu vois. Parce qu'il l'est vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une souffrance, enfin, je connais sa vie, il souffre comme tout le monde, mais pas outre mesure, il n'a pas eu d'expérience de vie traumatisante, tu vois. Il n'y a rien eu de tout ça, mais il est d'une ouverture, d'une simplicité, dans l'instant présent, justement, ce truc de lâcher prise. De pas avoir peur du lendemain, il a ce truc de changer comme ça, s'il s'écoute, quoi. Il a fait des hautes études pour être designer produit, il a bossé chez Adidas, et puis d'un coup, il dit, moi, je vais être chanteur. Puis il fait chanteur. Puis bon, il commence pour l'instant, tu vois.
Ouais.
C'est le premier mannequin que je vois qui commence à 28 ans et qui cartonne. Parce que toujours, ah, cool, et puis on aime la vie, puis on mange des fruits, et au marché depuis, tu vois, il a toujours été au marché. À 20 ans, quand moi j'allais au McDo, lui, il était déjà, bon, manger des fruits, c'est important, tu vois. Okay. Et il y a des gens qui sont comme ça déjà dans la simplicité. Des fois, je trouve que pour aller à cette simplicité, c'est souvent parce que tu t'as été ballotté, t'as eu plein d'expériences difficiles, t'as cherché, t'as taquiné la vie.
Moi, maintenant, je suis attiré par la simplicité et la quiétude parce que j'en peux plus d'être dans l'autre truc, quoi.
Voilà, c'est ça.
J'en peux plus d'être anxieux.
Souvent, c'est comme ça que t'arrives à ça. C'est avec la souffrance. Donc, je me dis, peut-être pas dans cette vie, tu vois. Enfin, c'est des. Je suis pas du tout bouddhiste. J'en sais rien, tu vois, mais, des théories. Quoi.
Parce qu'en plus, le bouddhisme, en fait, dit que la liberté, c'est la fin de la souffrance. Non mm. Le bouddhisme, en tout cas, c'est la fin de la souffrance. Le but, ouais, c'est la fin de la souffrance.
C'est ça. C'est, de toute façon, le mot liberté, déjà, c'est une notion humaine. Mais effectivement, à partir du moment où tu es libérant en bouddhisme, on appelle ça plutôt de l'éveil, prise de conscience, l'éveil, t'es plus dans ces notions-là du tout. Ça veut plus rien dire, même. La souffrance. Enfin, tu vois, tout ça n'a plus de sens, quoi. Tout ce qu'on dit là n'a pas de sens. Et c'est un concept qui me plaît bien, qui me parle, quoi. Tu vois, je suis pas bouddhiste, mais il y a des préceptes dans le bouddhisme qui m'intéressent, qui me parlent, comme dans le livre de Eckhart Tolle. Tu vois, ouais, ça parle à mon corps, à mes sens. Le fait de dire que... le fait de dire ça, quoi. Qu'il n'y a pas de... Qu'il n'y a plus de notion, que toutes ces notions n'ont plus de sens, quoi. Qu'on vit, enfin, tu vois, qu'on vit quelque chose qui est tellement au-delà de tout ça que ça ne s'écrit même pas avec des mots, là, tout de suite, tu vois. Je sais pas.
C'est quoi, en fait, pour toi, parce qu'on parlait de liberté, et je pensais, en fait, ça se définit un peu de plein de manières, en fait, la liberté. C'est quoi pour toi être libre?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Vraiment, ça va être une phrase politique. Vraiment, genre, qu'est-ce que ça veut dire être libre? C'est plutôt, je le vois plus comme un mot, genre, repère, comme une lumière dans le noir, tu vois, pour me rappeler de la direction où il faudrait aller, à peu près, plutôt que comme un concept et une définition concrète.
Tu vois ça comme un thème, en fait, ça.
Ouais, c'est plutôt un thème dans lequel il y a plein de sous-thèmes, quoi.
Ouais, ouais.
Qui sont liés à notre vie, en fait, puisque, comme je te dis, la liberté, c'est une notion humaine, de toute façon, ça n'a aucun sens sinon. Donc, pour moi, la liberté, j'entends la notion du temps, le rapport au temps, le rapport à la mort, donc, je te dis, c'est un grand thème de plein de choses, mais qui sont liés à notre rapport à la vie, tout simplement.
Est-ce que, je te parlais d'un truc tout à l'heure avant que tu viennes, tu sais, c'est que, c'est lié à tous ces trucs d'instant présent, de temps et tout, c'est. J'arrive pas à me décrocher de mon téléphone. Et toi, t'as plus de smartphone.
Ouais, bah oui, j'ai même oublié mon téléphone
que j'ai actuellement. Ton téléphone de dealer.
Ouais, mon vieux téléphone de grand-mère dealer.
Pourquoi c'était une décision consciente de je veux pas être addict au téléphone?
Ouais, bon,
déjà, en plus, t'avais un sketch là-dessus à un moment.
C'est ça, déjà, j'avais commencé à me faire mes propres mantras sur le sujet avec ce sketch sur l'iPhone. Quand j'ai vu qu'il y avait l'iPhone Mania et tout, j'étais là, ouais, ça a l'air fou. Enfin, c'est fou ce qui se passe, nos réflexes et tout. Quand j'ai commencé à essayer de zoomer une photo papier, j'ai dit, ah ouais, il y a un souci, tu vois, on commence à changer de façon de penser et tout. Et effectivement, quelques années après, je vois un documentaire sur de France 2, la Cache Investigation, et la fabrication des smartphones. Mais je le regarde vraiment, tu sais, parce que souvent on entend parler du reportage. Je fais, ouais, t'as vu le reportage? Ouais, je l'ai vu. Enfin, tu l'as pas vu. Puis un jour, je l'ai vraiment vu. Je fais, ah ouais, merde, putain. Ça m'a touché directement parce que je me suis dit, putain, c'est. Tu vois, on a moyen tous les jours de faire. On dit, on peut pas aider, on peut rien faire et tout. Tu fais, mais en fait, il y a des trucs de base qu'on peut faire, quoi. Genre, déjà, le téléphone que j'ai dans ma main, si j'arrêtais d'utiliser. Enfin, c'était vraiment, en somme, déjà, pour moi, l'outil, il est génial. Tu vois, le smartphone, c'est génial, ça claque, toute cette façon de. C'est l'être humain qui l'a pensé, donc on l'a pensé pour se faire kiffer, et ça, c'est le kiff, tu vois. Maintenant, c'est l'intention avec laquelle il est fait qui me dérange, quoi. Tu vois, c'est toujours la même chose, quoi. C'est. Les vestes Hugo Boss SS, tu vois, elles sont stylées, tu vois, mais bon, c'est dommage parce que l'intention dans laquelle elle est faite.
Ah, donc c'est plus une décision de genre consommateur responsable.
Donc c'était ça. Et mais déjà, moi, de base, j'étais pas quelqu'un qui était très proche de mon téléphone, quoi.
Ah, d'accord.
Tu vois, j'aimais bien pour les vidéos. Je me suis amusé à faire un documentaire d'ailleurs sur le stand-up à l'iPhone. Pendant un an, j'ai filmé les copains, mes tournées, tout ça. Et je trouve que c'est un outil génial pour plein de petites choses. Mais non, j'ai pas ce truc addict.
J'ai le sentiment que si je jette mon téléphone et que j'achète un téléphone de dealer,
ouais.
je vais avoir deux vies en fait. Je vais avoir une vie, celle-là, ouais, et puis ouais. Une en plus que.
Mais tu fais bien de le voir parce que moi, je suis un peu. C'est là où je te dis, je suis un peu trop impulsif, quoi. C'est que bah je l'ai fait et ma vie ça a été un enfer quoi, vraiment c'est,
ah ouais.
Bah c'est horrible quoi, tu sais, moi j'ai quand même beaucoup de contacts de gens qui t'envoient des messages, des très longs messages en général pour te dire des trucs, rendez-vous là pour le plateau de machin,
et maintenant tu les reçois en 10 messages,
15 000 messages et je comprends rien, et comme j'ai pas eu le temps d'enregistrer tout, mais parce que ça synchronise avec rien ce truc là, donc faut que t'enregistres manuellement tous tes contacts. En plus, tu peux même pas enregistrer le nom de famille en entier, parce que il te dit non, au bout d'un moment, au bout de trois lettres de nom de famille, il te dit non, c'est fini. Donc, t'es obligé de te rappeler des gens, enfin, ça développe une autre mémoire, une autre façon de penser complète. Enfin, tu vois, la machine, c'est toi, quoi, ça devient toi, le smartphone, et, mmh. Et c'est génial comme expérience. Ça fait un an, là, que j'ai arrêté, je kiffe. L'idée de, tu vois, ça me fait penser à un épisode d'How I Met Your Mother, où, je sais plus comment il s'appelle, le personnage, là, putain, Marshall. Où il court, enfin tu vois, il veut pas prendre de taxi, les maris font une course entre potes là, et puis il y a une chanson de lui qui est là, Marshall Against the Machine, et en fait il court dans toute la ville, tout le monde part en métro ou en taxi.
Ah oui, je me souviens de cet épisode, absolument.
Against the Machine, et vraiment c'est ça ce que je vis là, je suis contre les machines, quoi, contre la nouvelle technologie, contre le truc, et vraiment je me sens à contresens quoi. Avec le temps de message, le temps que je réponde à un message, il s'est passé 4 heures. Tu vois, c'est trop long. Mmh. Je suis perdu, quoi. Donc, je finis par répondre par mail aux gens qui m'envoient des textos.
Ouais, mais c'est marrant parce que tu cherches un peu, en fait. C'est,
je force, quoi, tu vois. Je...
Mais tu cherches, en fait, c'est des complications que tu cherches à chaque fois, un peu comme le fait d'être à la campagne.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais parce que, en fait, je réfléchis d'abord avec mon affect. Ensuite, dans le raisonnement, je fais, ah, c'est pas très logique. Hein. Trop tard, tu vois. Mmh. Trop tard, et en même temps, je l'ai fait parce que je le ressentais, quoi. Voilà, c'est vrai qu'il faut être, c'est de l'instant présent, c'est aussi beaucoup pas l'impulsivité, ouais, c'est l'impulsivité un peu quand même, je trouve. C'est-à-dire que c'est de côté écouter, tu sais, c'est une pote qui me disait ça, un jour je voulais me jeter à l'eau, on était sur un bateau et puis j'ai dit ah je vais dans l'eau, je vais pas dans l'eau. Elle me dit écoute ta première pensée, faut toujours écouter sa première pensée comme les enfants, ils écoutent toujours leur première pensée. Et je me rappelle cette phrase, moi, je l'ai gardée. Ah, la première pensée, c'est la bonne, quoi. Par exemple, quand tu vois quelqu'un, tu sais si tu l'aimes bien ou pas dès l'époque.
Tu crois que c'est la bonne, toujours? Alors moi, ouais. Parce que moi, ce que je dis maintenant, c'est si t'as un mauvais pressentiment, c'est que ça va pas marcher. Faut pas le faire.
Ouais.
Si t'as un bon pressentiment, c'est pas forcément que ça va marcher.
Ah oui, ça c'est
tu
vrai.
Vois parce que parfois, ma première pensée, c'est puis moi, j'ai des premières pensées sur plein de trucs débiles. Si oui, je vois une fille super belle, je vais dire, ah, c'est bon, c'est ma femme, je l'aime pour toujours. Et en fait, pas du tout, tu vois, je l'ai pas encore parlé, donc il y a des premières pensées qui t'induisent en erreur un peu, non?
Oui, non, mais c'est quand même la bonne, c'est-à-dire dans le sens, c'est pas la bonne, ça veut pas dire que ça va marcher, c'est que c'est la bonne en fait, c'est juste que c'est l'expérience que tu dois vivre. Ouais. Et regarde la preuve, c'est aller à la campagne, c'était pas du tout la bonne, le bon choix. Là, je me rends compte, tu vois.
Ah ouais.
Ouais, ma meuf elle m'a dit, faut que tu repartes à Paris, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu reviens, t'as trop de cernes, t'es fatigué. C'est pas le bon choix, mais c'était la bonne.
Donc en fait, toi, tu tentes tout, quoi. Dès que t'as envie de tenter un truc, tu le tentes et puis.
Je couche avec un mec. Tu vois, je fais des trucs un peu genre, ok, je suis une ouf.
T'apprends, c'est empirique, quoi. C'est expérience après expérience.
Exactement. C'est vraiment ce que j'étais en train d'écrire en ce moment là pour un stand-up. C'est pas facile à écrire en stand-up.
Empirique.
C'est pas marrant. Ouais, le fait de vraiment avoir besoin d'expérimenter les choses pour les croire, quoi. Sinon.
Ouais, tu peux les lire autant que tu veux.
Ouais.
Mais moi, j'ai lu énormément de bouquins. Ouais. Et tu fais, ouais, j'ai tout compris. Dis donc, instant présent, être libre, etc. Bah, et puis après, tu fais, putain, mais je suis en dépression.
J'ai l'impression que j'ai pas compris tout. Hein.
Ouais,
j'ai loupé une page.
Ouais, il faut de faire les choses.
Oui.
Et il y a quelque chose qui m'intéresse. Tu dis que je switch beaucoup de sujets. J'espère que les gens m'en voudront pas, mais on s'en fout.
Ouais, désolé. C'est vrai que moi aussi, je digresse beaucoup quand je parle.
Mais c'est un podcast tout en digression. Donc,
ouais,
c'est pour ça, t'as vu,
je regarde. Sujet,
j'essaie de parader mes questions et tout. Tu dis, j'écris là-dessus, c'est difficile. Et c'est pas forcément très drôle. Et quelque chose que je trouve intéressant avec toi, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que t'es pas drôle. C'est pas ce que j'allais dire. Non, j'ai l'impression.
J'aurais aimé fin du podcast. Merci, à la semaine prochaine.
Non, mais parce que je t'entendais parler de George Carlin dans une. Ouais. Et George Carlin, c'est un type qui. Il essaie. T'as l'impression qu'il essaie de dire des trucs vrais. Donc en fait, il parle et tu te dis, ah ouais, ok, moi je suis d'accord. Mais t'es pas forcément en train de te marrer.
Ouais, ouais.
Et puis il y a des blagues qui tombent à des moments où là, tu te marres.
Ouais.
C'est différent d'un type genre. Le now infamous Louis C.K. qui lui met des punchlines toutes les 10 secondes, tu vois, par exemple.
Complètement.
Et donc, je voulais te demander, est-ce que toi, parfois, en fait, t'essaies de trouver un... T'es pas là tout le temps que pour faire rire, en fait, ça.
En fait, je suis pas du tout là pour faire rire, mais...
C'est un malentendu.
C'est un malentendu, les gens se foutent de ma gueule. Non, mais en fait, si, je suis bien sûr que je suis là pour faire rire, c'est mon taf de stand-up. C'est la meilleure façon de faire passer des messages, en fait, c'est surtout ça. Et donc, si ta punch est bonne, ton message est bon. Ta punch est bonne. Mais après, c'est une question de jugement de valeur, évidemment. Mmh. Tu vois, il y a des punchs qui sont très bonnes pour des publics, et là où je suis là, ah, putain, c'est raciste, tu vois. Donc, ça, c'est un jugement de valeur. Mais en l'occurrence, pour moi, quand ma punch est vraiment bonne, c'est que j'ai réussi à clairement exposer mon idée. Donc, oui, j'essaye en tout cas. Je crois que la plupart des stand-uppers aujourd'hui, ça a changé le stand-up de basique qu'on faisait au début, en fait, parce que c'était le début. Du stand-up.
C'est quoi la différence
Le stand-up d'observation, on va pas, on dit voilà.
Vous avez vu les mecs dans le métro.
Voilà, et okay. Puis ça s'arrête là, et puis on dit bah oui, mais on est allé où? En fait, je crois qu'aujourd'hui, le stand-up, c'est un peu celui que je suis en train de faire pour la plupart des gens, parce que il se passe tellement de choses de ouf. Et on est aussi, nous qui faisons du stand-up, on a tous à peu près la trentaine, ou en tout cas, on est tous à un âge de réflexion nouveau. Une réflexion nouvelle, pardon. Et ça amène du coup un stand-up un peu plus mature. Donc je pense que George Carlin, tu vois, moi j'aimerais beaucoup un jour faire du George Carlin, mais je crois que George Carlin a fait du George Carlin quand il a commencé à être assez vieux.
Mais il avait 60 piges, voilà. Comme ça, non?
Et donc je crois que bien on est, t'en as plus rien à foutre. Donc aussi les effets, t'en as plus rien à foutre. Aujourd'hui, moi, quand je dis c'est dur de tester des trucs, c'est parce qu'en fait c'est nouveau pour moi. En fait, ça fait 10 ans que je fais de la scène, mais ça fait que 5 ans que je fais du stand-up parce que les 5 premières années, je faisais de l'humour. Je connaissais pas vraiment le stand-up. Je connaissais pas les stand-uppers américains. Je connaissais les humoristes français, moi. Je connaissais l'humour en France.
C'était quoi tes influences? C'était genre Gad Elmaleh, tout ça ou...
Ouais, c'était... En fait, oui, il y avait Gad Elmaleh. Mais il y avait... Tu vois, c'était un peu tout, tu vois. Donc, c'était rien, finalement. C'est non pas que je vais descendre le travail des collègues et des pairs. Au contraire. C'est juste que moi, en tout cas, je savais pas vraiment ce que j'aimais. J'aimais un peu tout partout, tu vois. Et d'un coup, quand j'ai vu les premiers stand-up américains, parce que Kian et tout ça, on se passait des disques durs avec des vidéos, machin, et que j'ai découvert George Carlin, je fais oh putain, c'est exactement ça que je veux faire depuis le départ. Mais j'aurais pas pu le nommer, je savais pas, je l'avais jamais vu en fait.
Comment tu le décris?
Comme le fait effectivement juste de dire des choses. Et mais en fait, elles sont tellement vraies ces choses chez George Carlin que c'est drôle parce que c'est vrai. Moi, il y a plein de moments où les gens ils font et moi je rigole, tu vois, parce que c'est ma façon de m'exprimer au monde, mais effectivement, c'est vrai que souvent, on n'a pas l'habitude de cet humour. Mais pour moi, c'est un vrai humour à part entière, qui sont des punchs où tu peux vraiment faire haha. Tu vois, là où les gens, pour l'instant, font mhm, parce qu'ils n'ont pas l'habitude qu'on leur dise des trucs qui sont tellement.
C'est intéressant, ça. Tu crois qu'il y a une préparation de l'esprit des gens qui est nécessaire avant, que par exemple, tu peux faire des choses trop nouvelles.
Ouais.
Et que du coup, ça prend pas aussi bien. Je sais plus qui me disait
ouais,
ça.
Ouais, des fois, ça peut paraître. En fait, le problème, c'est que moi, j'essaie de pas trop me dire ça avec moi-même, parce que c'est un peu présomptueux, tu vois, de dire, ouais, c'est prétentieux de dire en gros j'ai de l'humour du futur.
Il n'y a jamais eu de George Carlin en France en fait. Il n'y a pas eu de préparation du terrain.
C'est vrai. Mais sur le stand-up en général en fait. Parce que finalement, à part des proches, tu vois, dont on parle tout le temps quand on parle de l'ancien stand-up.
Donc des proches, c'est un petit plus proche de George Carlin, tu penses?
Pour moi, c'est un des plus proches, mais un peu proche, tu vois. Mais il n'y avait pas voilà, cette conscience de dire je vais raconter des trucs, quoi. Tu vois. Vraiment, c'est-à-dire j'ai vraiment envie de vous raconter des trucs pour que ça déconnecte des choses dans votre cerveau. Mais effectivement, il n'y a pas de préparation de terrain du tout. Pour le stand-up d'une manière générale, mais encore plus pour ce type de stand-up-là. Ouais. Ouais.
Et c'est un truc qui te fait peur de défricher comme ça ou pas?
Bah, là, ça me fait plus peur, ça me fatigue des fois. C'est plus en mode ah, c'est relou, je suis toute seule. Des fois, on est 2-3. Puis après, voilà. Mais c'est vrai qu'en même temps, j'ai pas trop de choix, quoi, parce que c'est ça que je sais faire. Après, sinon, je serais pas heureux si je commençais à aller sur TF1 dans le décor penché pour dire ouais je suis comme tout le monde, tu vois, je suis pas comme, enfin je veux pas être ça, voilà, je veux pas être le truc de ah bah j'aime bien un tel, tu vois ce que j'ai aimé à l'époque, la façon dont j'aimais les choses et dont je les consommais, je voudrais pas que mon public les consomme comme ça, quoi, parce qu'en fait on pense connaître les choses mais on connaît pas, et donc je voudrais avoir un public plutôt de niche finalement, tu vois. C'est fini l'histoire de penser au grand public.
Au début tu pensais au grand public?
Ben oui, parce qu'en fait j'ai grandi avec la télévision finalement. Je me suis rendu compte qu'à table, on mangeait avec la télé. Enfin, tu vois, on regardait, comment s'appelle, Star Academy à l'époque, et on s'engueulait à cause des votes, tu vois. Donc, on était dans cette culture de la télé. Donc, en fait, inconsciemment, ça jouait sur mes objectifs vis-à-vis de mon art. C'est-à-dire que.
Tu disais réussir, c'est passer à la télé.
Ouais, il y avait un amalgame inconscient. Et quand j'ai fait de la télé, je me suis rendu compte que j'étais là, attends, je comprends pas, j'aime pas du tout ça. Et c'est dans cette mon taf. Puis après, j'étais voir une psy au moment qui m'a dit, mais c'est pas votre taf, ça. Ça, c'est pas, ça, c'est une option dans votre taf. Vous faites de la scène. Vous faites du spectacle vivant.
La télé, c'était pas vivant. Enfin, c'était pas.
La télé, c'est pas ça. C'est pas que c'est pas vivant. C'est, tu sais, faire vraiment de la télé, quoi. Le côté télécrochet, en l'occurrence, que je faisais à l'époque. Je trouve que vraiment, c'est fake, quoi. Tu vois, il y a un truc pas du tout. Puis toi, tu connais rien. Tu sais pas ce que tu. Tu sais même pas pourquoi t'es là. Donc, déjà, c'est pas normal que tu sois là. Ouais, donc, voilà. J'ai expérimenté ça. Et j'ai dit, ah, ok, j'aime pas. Cette façon de le faire.
Encore une fois, t'as essayé avant de pouvoir dire j'aime pas et de faire la suite.
Ouais, j'ai vraiment essayé. J'ai vraiment fait plein de trucs que j'aimais pas. Vraiment. Pendant beaucoup trop de temps. Je crois que c'est aussi mon éducation du fait d'être une femme, pour le coup. Même si on prend beaucoup pour un mec physiquement, je reste une femme dans mon éducation. Et je crois qu'on est souvent éduqué pour dire oui à tout, presque. Tu vois. Toujours être poli, être sympa. Et je crois que j'ai toujours été trop sympa, tu sais, je veux pas te dire non, j'ai peur de gêner, pas déranger, vexer, blesser. Pendant longtemps, en tout cas, tu vois, on a cette image de moi de quelqu'un qui est très sûr d'elle, qui sait exactement où elle va, mais putain, c'est tellement touchant que quelqu'un fait attention à toi, à ton travail, et te dit, ah, j'aimerais bien t'inviter à un truc. Et moi, j'ai 15 000 potes, ils font, ah non, c'est mort, je le fais pas, c'est pas payé, comme il faut, etc. Et toi, tu fais, mais c'est quand même mon travail de le faire, tu vois, c'est bien de, et tu dis oui, et tu dis oui à tout, et donc, ou dire oui à tout, tu vois, au bout d'un moment, bon, voilà, je sais exactement ce que j'aime et ce que j'aime pas.
Tu sais exactement quand est-ce qu'il faut dire oui et non maintenant ?
Non, toujours pas.
Parce que moi, je suis nul à ça.
Non, je sais quand. je sais quand maintenant, quand est-ce qu'il faut dire non, ça me fait de la peine maintenant, tu vois, mais je le fais parce que ça me fera plus de peine. En fait, je suis le genre de personne qui dit oui à tout, puis après, qui change.
T'annules ?
J'annule pas, mais je le fais les sourcils froncés. Ouais, ouais. Et donc c'est cool pour personne.
Moi j'annule, donc c'est peut-être mieux de le faire à. Moi non, je dis oui, et après je roule sur mon canapé pendant une journée et je fais en fait non.
Ouais,
je peux pas.
C'est ça. Ça arrive aussi. Ça arrive aussi que j'annule avant. Non, désolé.
Tu dis que t'as grandi avec la télé, le fait de plaire à beaucoup de monde. Ouais. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un paradoxe entre faire de l'humour et plaire à tout le monde, puisque est-ce que t'es pas un peu obligé de cliver ou de justement de.
Mais oui, mais ça, quand j'ai commencé, moi, je le savais pas du tout. Hein. Moi, vraiment, je suis arrivé dans. Pour moi, l'humour, c'était. Mon premier. Parce que j'avais un objectif quand j'ai commencé, quand même. C'est un peu. On va dire un peu complexe de Messie, comme tous les humoristes, je pense, de se dire, OK, quelle est ma mission en tant qu'humoriste. Et moi, je me suis dit, c'est de faire. Tu vois, cette phrase bateau, dire je vais donner du bonheur aux gens. Et vraiment, grâce à moi, ils vont réussir à.
Ça, c'est la phrase bateau du monde des humoristes.
Ouais, ouais. On va donner du bonheur aux gens.
C'est un peu comme dans les startups, rendre le monde meilleur.
Oui, alors que tu vois, tout le monde est censé le faire tous les jours, tu vois, donner du bonheur aux gens, enfin, des bonnes énergies en gros quoi. Et en vérité, avec le temps, je me suis rendu compte que c'était pas du tout notre taf, au contraire. Donner du bonheur, tu vois, cette illusion. Enfin, le vrai taf d'humoriste. Après, moi, je suis rentré par une porte où notre taf, c'était donner du bonheur aux gens et de vraiment toujours faire croire que notre vie était formidable. Et que si on fait une dépression, on peut pas en parler sur scène. Par contre, on nous voit dans le public, tu vois, dans Closer pour et qu'en flouté, j'aurais fait une dépression, tu vois. Par contre, je peux pas vraiment en parler sur scène. La sexualité, faut pas vraiment en parler. La politique, faut pas vraiment en parler.
En fait, tous les vrais trucs, faut pas en parler.
Pas vraiment, tu vois. On peut pas te dire non, mais on te dit pas vraiment. Et donc, moi, ça.
Alors que c'est les choses, c'est les vraies choses qui sont drôles en fait. En
général. De ouf. Et quand moi, j'adore partir en tournée dans des clubs, des caves, tu vois. Où vraiment t'as le vrai public de la ville, quoi, tu vois. Et les gens rigolent à tous les sujets, quoi. Ou des gens où tu dis, même des gars qui font des réflexions racistes ordinaires, tu vois. Mais ils sont morts de rire sur des trucs, on arrive à ensemble avancer, évoluer un petit peu, tu vois, à discuter, échanger à travers des blagues. Donc.
C'est ça ton nouveau but, un peu? Ou, tu sais, quand tu dis.
Disons qu'aujourd'hui, j'ai plus de but, si ce n'est celui de m'écouter toujours plus sur scène. Tu vois, je l'ai fait dans la vie pour plein de trucs, mais sur scène. C'est pas encore gagné, c'est ça qui est assez paradoxal pour le coup. C'est d'être à la fois.
T'as l'impression de pas aller jusqu'au bout parfois?
Bah, c'est tout le truc de la scène. C'est-à-dire que, on dit que t'as autant de. Ton âge dans le stand-up, c'est l'âge que le temps que t'as fait sur scène, quoi. Donc finalement, moi, j'ai 5 ans en stand-up, tu vois. C'est mon âge stand-up. J'ai 5 ans, donc je suis un bébé.
Tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un côté. C'est vraiment le temps passé qui fait la qualité, quoi.
Exactement. Donc je suis un bébé, je vais apprendre à marcher. Je vais rentrer à l'école primaire, tu vois. Donc, je vais apprendre à lire, à écrire et je vais pouvoir bien m'exprimer. Donc là, pour l'instant, en stand-up, je suis qu'à la jeunesse, quoi. Ça met beaucoup de temps.
C'est un sentiment positif, non, du coup, d'être à l'âge, d'être au début.
C'est là où vient toute l'angoisse de la mort, mon ami.
Ouais, c'est ça.
C'est là où tu dis, ok, donc, pas que je meure là, vraiment, parce qu'il faut que je.
Il faut que je devienne fort.
Parce qu'au début, moi, je pense que je voulais mourir à 27 ans, comme tout le monde, tu vois. Comme tous les gens qui veulent être connus. Et tu sais, on a tous ce truc.
Alors, moi, non, beaucoup. Moi, je voulais être connu, mais je voulais pas mourir.
Il y a beaucoup de psychopathes, ouais. Comme
juste
moi.
Être riche qui... et connu. Longtemps.
Ouais, non. Vraiment, c'était plus le côté affect de tout le monde va m'aimer plus fort.
Ah oui.
Parce que je serais mort plus jeune, tu vois. Puis après, on a dépassé les 27 ans, on fait bon, bah ok, ouais. Et puis on n'est pas aussi connu qu'on pensait. Donc ok, on va continuer, puis j'ai découvert le stand-up et je me suis dit, ah, en fait non, c'est tout l'inverse, il faut que je me meure le plus tard possible pour être la plus drôle possible, tu vois. Mais j'avais pas de référence effectivement en France avant sur le stand-up, je savais pas ce que c'était, donc j'ai mis du temps à comprendre.
Et du coup, il y a encore des moments où tu fais des spectacles et où tu te dis, ah, j'aurais pu aller plus loin, ou je suis pas allé assez loin.
Tout
ou...
le temps, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Parce que ça, c'est un gros, un de mes autres débats du moment, c'est est-ce que je vais, j'aime bien écrire des choses, ouais. Et même dans les interviews, je pense, je me dis, est-ce que je dis assez la vérité? Il y a un type, un auteur qui s'appelle Neil Strauss, mm-hmm. qui a fait des trucs trop bien, genre la biographie de Marilyn Manson, que je recommande à ceux qui écoutent, qui est excellent, et qui dit qu'il faut pas chercher à être drôle, qu'il faut chercher à dire la vérité, et que la vérité s'occupe d'être drôle, en fait. Et,
c'est vrai,
mais des fois, c'est dur de dire la vérité.
C'est très belle cette phrase, c'est vrai. C'est dur de ouf.
Ouais, je trouve ça terrifiant, quoi.
C'est intéressant ce que tu dis. La plupart du temps, je me plante en ce moment sur scène. Pour moi, je me plante. Les gens le voient pas forcément, mais pour moi, c'est totalement un échec. C'est pas du tout l'idée que je voulais défendre, et puis ça se développe pas bien, la punch est pas bonne et tout. C'est vraiment ce que je me dis. C'est putain, ce que je ressens à ce moment-là, je devrais le dire aux gens. Parce que, en fait, ils le vivent un petit peu. Tu vois, ils sentent bien qu'il y a un truc qui est pas aussi drôle que ce que ça devait être.
Tu devrais dire ce qui passe, c'est ça?
Ouais, ce que je ressens.
C'est trop intéressant ce que tu dis parce que.
Écouter son émotion et la dire, quoi.
On me reproche souvent dans ce podcast, enfin les gens qui me font des reproches me reprochent de trop interrompre. Et en fait, moi, ce qui m'énerve, c'est quand j'interromps pas assez, parce que parfois j'interromps pour parler de moi, donc je comprends. Mais il y a parfois où j'interromps pour poser une autre question qui n'a rien à voir. En fait, c'est parce qu'elle passe et je me dis si j'aurais plus jamais l'occasion de la poser cette question.
Ouais, bah oui.
Et il faut absolument que je la pose maintenant,
ouais.
Parce que c'est le vrai truc que je voulais demander.
Ouais.
Parce que parfois je pose des questions et en fait la personne m'en parle et je suis là ouais d'accord, mais en fait j'ai envie de poser une autre question et je vais pas la poser parce que j'ai peur d'interrompre.
Ouais, c'est. Je pense qu'il faut s'écouter. Hein.
Mais ça aussi, c'est un muscle. En
encore
fait.
Une fois. Hein
ça aussi, c'est un muscle encore.
Ouais, c'est ça, ça se travaille. Et puis, il faut s'écouter. Mais c'est l'expérience qui te dira si c'est une bonne chose ou pas de couper les gens. Je pense que oui, a priori. Si tu le sens, tu le sens, quoi.
T'as peur de cliver, ou de trop cliver, ou de dire une grosse connerie, ou de.
Ouais, c'est ça qui est chiant quand tu fais du stand-up.
Surtout, quand les humoristes, j'ai l'impression que tout le monde est un peu sous tension. Notamment, je pense que sans doute que l'Internet et les réseaux sociaux ont pas mal joué là-dedans.
Sous
mais
tension par rapport.
Bah. T'as peur de dire des bêtises, quoi, ou de vu que c'est un métier artistique,
ouais,
si
ouais.
tu veux être bon, faut toujours que tu sois un peu à la frontière.
Ouais,
mais si t'es à la frontière, t'as le risque de mettre les deux pieds de l'autre côté et de te prendre un énorme bad buzz.
Ouais, oui, ouais. C'est clair que c'est compliqué. C'est même pas au-delà de, tu vois, de montrer son travail. Hein. C'est vraiment déjà sur scène, parce que quand tu joues devant 50 personnes dans un plateau, des fois tu te plantes sur ton idée, et puis c'est pas grave, c'est juste ce soir-là. On est au courant maintenant quand on fait staff tous les soirs que. C'est juste ce soir-là et c'est pas grave. Même ce soir-là, devant 50 personnes, il faut des fois assumer une opinion qu'on a. Même si on sait qu'on peut changer demain d'avis, c'est très difficile ouais, d'arriver avec son opinion. Parce que plus tu vas pousser ton sujet, ce qui est le plus simple, c'est les blagues de surface. C'est-à-dire les premières blagues qui nous viennent quand on pense à un sujet. Mais là où c'est que vient de compliquer, c'est quand tu mets dans ce sujet ton avis et que ton avis... Ben, il est intime, et puis, ben, en général, si tu viens le défendre sur scène, c'est qu'il est un peu différent de ce qu'on peut entendre ou qu'on peut voir sur les réseaux sociaux ou dans les journaux, les actualités. Donc, t'arrives avec quelque chose où tu trembles un peu, quoi. Exemple, quand je vais parler, il y avait la polémique sur Dove, à un moment donné, tu sais, par rapport à la publicité, t'as pas vu? Il y a eu une polémique, en fait, par rapport à la communauté noire française, parce qu'il y avait une pub Dove où il y a des femmes qui enlevaient leur pull, c'était une vidéo. Puis il y a une noire qui enlève son pull, elle devient blanche, et puis la blanche devient latino, etc. Sauf qu'ils ont mis un screenshot sur, qu'ils ont fait tourner sur les réseaux, où tu vois juste donc la femme noire devenir blanche, tu vois. Et donc c'est devenu ouais c'est super raciste et tout ça machin. Moi la première j'étais un peu fâchée contre Dove parce que en fait c'est pas la première fois que Dove fait des trucs un peu chelous et que moi j'ai fait de la com en études et je sais exactement que quand t'as une communication de crise juste avant sur le même sujet, bah la pub d'avant tu fais très gaffe à ce que tu fais et qu'ils l'ont pas fait. Donc on se dit, putain, les gars, vous le faites exprès ou, tu vois, faites attention, quoi. Donc c'est encore un autre sujet, mais en l'occurrence, ce n'était pas raciste. La pub n'était pas raciste en soi. En l'occurrence. Mais si des gens ont, comment dire, chopé le screenshot et dit, eh, ça nous blesse, ça fait mal, ça fait chier,
c'est qu'ils sont tatillons, quoi. Ils font chier, tu vois, ils vont. De toute façon, la communauté noire va faire chier sur tout maintenant. Donc, ça, c'est un autre sujet. Bref. Toujours est-il que quand j'en parle sur scène, eh ben, souvent, je joue en plus de blancs que de noirs. Quand je joue que devant des noirs, il y a des sujets sur Dove, les gens comprennent direct parce que déjà, ils ont l'actu en tête, ils ont vécu le truc, ils ont réfléchi à la chose, etc. Quand je vais jouer devant un public plus blanc, qui n'a pas réfléchi à la chose, ça va pas du tout être écouté pareil. Donc déjà, quand je vais parler de Dove, déjà, quand je vais amorcer Dove, s'ils vont faire comme, par exemple, là, la tête qu'elle t'avait, genre, non, je vois pas ce que c'est. Donc déjà, je fais merde. Va falloir que j'explique, que je réexplique l'actu du truc. Donc déjà, tu vois, on a une distanciation qui se crée par rapport à la punch qui va arriver, quoi. Et donc, c'est comment une bonne idée, même si tu connais pas le sujet, je suis censé pouvoir t'amener à rire avec ça, tu vois. Mais c'est ça qui est très compliqué dans le fait d'avoir un avis sur scène et de le défendre. C'est que tu dois être toi-même convaincu de là où tu veux emmener les gens. Des fois, tu fais
et
des...
t'es convaincu, toi?
Des fois, tu sais même plus pourquoi, là où tu veux emmener les gens. C'est-à-dire que toi, ça te parle, mais c'est tellement évident, ton idée, que si on te dit, mais de quoi elle parle, tu vas dire, attends, tu vas refaire la vanne en soi, mais tu pourras pas dire exactement. Ça veut dire que c'est pas clair encore. Tu vois, c'est comme un pitch de film, quoi.
Ouais.
En somme, si on te dit de quoi ça parle et que tu commences à dire des détails qui n'ont aucun sens à ce moment-là, c'est que ton idée n'est pas encore claire. Et c'est tout le travail du stand-up, en fait. C'est de réussir à être solide dans son idée.
Mais plus tu creuses un sujet,
ouais.
Ce à quoi je pense en ce moment, plus tu creuses un sujet, moins tu es certain de ce que tu dis, j'ai l'impression, parce que plus
oui,
tu apprends des choses, moins
tu
es certain.
C'est ça, la difficulté, c'est que faut l'écrire, comment tu fais, après, il faut le dire, quoi.
Tu le dis, tu assumes.
Devant des gens, et les regarder et faire j'y crois à ce que je viens de dire.
Tu penses que ça s'adapte au reste de la vie hors du stand-up, croire en tes trucs à fond, quitte à changer d'avis ensuite, plutôt que pas savoir?
Ouais, mais c'est plus dur en stand-up pour moi parce que c'est vrai que souvent on va peut-être filmer des trucs, tu vois. Moi, des fois, ça m'arrive qu'on ait filmé des sketchs où je suis là, je suis plus tout à fait d'accord, tu vois. Bon, c'est pas non plus des sujets de malade, mais par exemple sur l'iPhone, pour le coup, le fait que j'étais très accro à l'iPhone avant et que c'était mon sketch, je disais j'en peux plus d'être accro, mais je suis accro quand même, tu vois. Et d'un coup, j'ai arrêté le smartphone, donc je dis que j'ai un nouveau téléphone de dealer, mais là je sais que bientôt je vais acheter le Fairphone, qui est le smartphone équitable, donc c'est le seul qui existe. Et donc je vais forcément en parler en stand-up, tu vois. J'ai pas parlé de mon téléphone, toutes les vannes que j'ai sur le téléphone de dealer, alors que j'aurai un smartphone à ce moment-là. Donc je vais mettre à jour tout ça. Et en fait, le tout, j'ai mis je sais pas combien de mois à trouver mes bonnes vannes pour pas vexer les gens sur le fait que j'ai arrêté le smartphone et que quelque part c'était un peu tous des connards, mais que moi non, tu vois, sans vexer les gens, comment réussir à trouver le bon positionnement, les bonnes vannes pour qu'ils comprennent que c'est pas le but de les attaquer.
Est-ce qu'il faut qu'ils comprennent ça? Est-ce que c'est ton boulot de faire en sorte qu'ils comprennent?
Ah oui, mais sinon, ils rigolent pas.
Ouais.
Donc ça c'est relou parce que moi souvent je suis rebelle comme ça, je suis là mais attends, d'où c'est à moi aussi de mais c'est ton métier en fait de faire rire les gens, tu vois. Parce qu'on peut être des fois un peu mauvaise foi, mais c'est parce que si tu prends chaque personne individuellement, c'est pas du tout le même rapport que quand ils sont en groupe, voilà, tout simplement. Donc c'est pas parce qu'ils comprennent pas le truc et qu'ils trouvent pas ça drôle, des fois c'est juste que la façon, la musique justement dont on parlait du début, avec laquelle tu vas la dire, ben ça va.
Puis si tu vois que les autres ne rient pas, tu vas pas rire.
Ouais, voilà, il y a tout un truc, c'est à toi de maîtriser ça, de dire je sais exactement où je vous emmène, tout va bien se passer, même si c'est épineux.
Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je sais que je vais bientôt devoir te libérer.
Mais est-ce que je suis dans une cage?
Mais tu parles des vidéos que tu as faites il y a plus longtemps, donc avec lesquelles tu n'es plus vraiment d'accord, ou sûrement qu'il y a des choses que tu as faites que tu trouves moins bien aussi, et sûrement que quand tu fais, tu testes des blagues, tu prends des bides, forcément. Mais en fait, est-ce que ça c'est quelque chose qui t'affecte vraiment au quotidien ou qui t'a affecté à un moment?
Non, au quotidien, non.
Ouais.
Au quotidien, non, mais il y a des moments, c'est douloureux.
Je pense que beaucoup de gens ont peur de démarrer des trucs parce qu'ils ont peur de ces moments-là, en fait. Ces moments où tu sors quelque chose et ça marche pas. Ou alors, t'as fait des trucs et en fait, après, tu les assumes plus.
Non, c'est vrai que ça, en tant qu'humoriste, on a cette chance quand même que c'est notre travail en permanence. C'est-à-dire qu'un chanteur, à un moment donné, c'est plus son travail. Il va pas aller tous les soirs en comedy club, enfin, en cave pour aller tester ses chansons. Tu peux vraiment travailler ta chanson dans ton coin avec tes musiciens, etc., sans avoir à tester devant le public, parce que l'effet que t'attends du public n'est pas le même que nous. Nous, on attend vraiment qu'ils rigolent. Donc, on est obligé d'aller travailler tout le temps des blagues. Et donc, effectivement, on se prend souvent pas mal de vent, quoi. Donc, on a cette chance de savoir que l'échec, ça fait partie de notre réussite, quoi. Donc, là-dessus, il n'y a pas d'angoisse permanente, tu vois, à se dire, oh putain, c'est notre vie, ça.
Ouais, vous êtes forcé de vous réinventer tout le temps.
C'est tout le temps notre vie, quoi. C'est vraiment, c'est ça. C'est faux être faux. Ça, ça,
ça force à être humble ou à être un gros connard. Tu vois, vraiment, c'est soit t'es l'un ou l'autre, quoi. Tu vois. Soit tu dis, bon, humilité totale, ça sert à rien. De toute façon, je vais me planter et je peux me planter à vie en étant même très connu. Soit, parce que c'est vraiment ça le stand-up. Et j'insiste sur le fait que c'est une discipline qui est toute nouvelle en France et que la façon dont nous, on le pratique actuellement, ça n'a jamais été, en fait, le côté café-théâtre qu'il y avait à l'époque. C'est pas du tout la même chose que ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, de jouer trois fois par soir, presque, tu vois. C'est vraiment, genre, on joue trois fois cinq minutes dans des plateaux. Il faut qu'on mange le maximum de scènes.
Mais c'est une répétition énorme.
Bah, c'est même pas une répétition. C'est ça qui est horrible. C'est pour ça qu'il y a une drogue. Parce qu'en fait, c'est pas genre, tu répètes ton texte comme un théâtre, au théâtre où t'as un texte et tu le répètes par cœur. Et bon, ok, je l'ai pas déclamé comme je devais là. J'ai pas assez articulé. J'aurais peut-être dû appuyer plus sur ce mot. Donc, je vais aller répéter dans un autre truc. C'est pas du tout ce qui se passe. C'est que là, tu changes d'endroit. Donc, tu changes d'ambiance. Tu changes de gens. Tu changes de tout. Puis, il y a plein de gens qui passent. Donc, en fait, c'est dans une galerie. Donc, t'as cinq minutes pour faire. Ah, maintenant, vous êtes avec moi. Et je vais vous emmener dans mon délire, dans ma musique, tu vois. Tu vois, ils sont, ça s'est passé super bien passé avec un gars avant. Ils sont en mode, tu vois, ils sont dans sa musique. Et même s'ils adorent ta musique, il faut le temps de digérer, en fait, entre les deux. Et ça, tu peux rien y faire. Tu vois. Donc, tu peux pas répéter quelque chose de la même façon. Parce que y a pas le même ordre de passage. Rien n'est pareil. Rien.
Tout à l'heure, tu disais, j'ai pas envie de mourir maintenant parce que je veux devenir forte en stand-up. Mmh. Mais en fait, tu peux devenir forte en stand-up. Quand est-ce que tu sais que t'es forte en stand-up?
Quand les gens rient fort et que vraiment, je crois que c'est un truc vraiment en plus tu t'en rends compte. Je pense qu'il y a des moments, des périodes de vie en stand-up où tu cartonnes. Tu vois, t'as tes petits moments. Et puis après, c'est des cycles en fait. T'as besoin de faire des. En tout cas, moi, c'est un peu dépression, succès. Tu vois, c'est pas vraiment dépression dans le sens encore une fois négatif, mais c'est comme l'agriculture. Tu vois, là, tu plantes, tu sèmes, tu récoltes. Puis après, il y a tout, je sais pas trop comment ça se passe exactement, mais je crois qu'il y a des mauvaises herbes, etc. Que tu laboures, tu vois, pour.
J'ai cru que t'allais vraiment entrer dans le détail.
Ouais, moi aussi, j'ai cru. Et après, j'étais là, non, en fait, je croyais pas. Je voyais un tracteur, et c'est tout. Donc, mais voilà, je pense qu'il y a tout ce truc de labourer et de recommencer pour semer, récolter de nouveau. Tu vois, donc, c'est la vie, en fait, quoi. Le stand-up, c'est vraiment la vie pour moi.
C'est tous les jours, quoi.
C'est vraiment, c'est une leçon de vie permanente. Tu réussis pour échouer.
Bah, merci beaucoup, Shirley, d'être venu sur une nouvelle école. On vient de faire pile une heure.
Formidable.
C'est pas mal. Hein.
Cool.
En ce moment, tu as un spectacle qui s'appelle Monsieur Shirley,
ouais.
Qui est où tu joues à Paris à la Nouvelle Scène.
Exact.
La Nouvelle Scène, c'est à côté de Notre-Dame, du côté Saint-Michel.
C'est vrai.
Pour les gens qui écoutent. Parce que je dis ça parce qu'ensuite, j'allais te demander où est-ce que j'envoie les gens qui s'intéressent à toi.
Oui, ben bah on voulait à la Nouvelle Scène.
À la Nouvelle Scène.
Ouais, pas chez moi direct, à la Nouvelle Scène.
Non, mais je voulais dire sur les réseaux sociaux.
Ah ou oui. Tu vois, je suis déjà déconnecté. Facebook, hein.
Facebook.
C'est ça, on dit ça. Facebook. Twitter. Instagram. Bientôt, j'aurai re-Instagram parce que je n'en avais plus. Et j'avais plus de quoi faire des photos, donc.
Ah oui, je voyais que ça faisait longtemps que t'avais pas.
Bah ouais, je pouvais plus. Mais là, je vais avoir le Fairphone.
Ah oui, j'ai oublié de te poser une question hyper importante. Vu que tu lis plein de bouquins.
Ouais.
Quel bouquin je dois absolument lire?
Absolument.
Ouais.
Je sais pas si t'as déjà lu Le Prince de Machiavel.
Ouais, si, ouais, j'ai lu Le Prince.
Ouais, tu l'as, t'as fini?
Bah, je l'ai lu il y a longtemps quand j'étais à l'école, donc peut-être
oui,
que je l'ai torché.
Oui, à l'école, t'as dû faire des extraits, des analyses de texte. De...
Ouais.
Pas du tout.
Bah, je vais relire. Parce,
je pense qu'il faut le relire adulte, ce bouquin. Il est intéressant sur la façon dont on pense le monde, je trouve.
Ok, j'irai lire ça.
Ouais, et tu voulais des trucs un peu plus, peut-être. Un peu plus spirituel, peut-être.
Non, pas du tout. Non, un peu plus.
Et la Bible, sinon.
La Bible.
J'aime beaucoup.
La dernière fois, j'ai acheté le Coran. Je me suis dit, tiens, ouais. Je vais lire ça. Allez, je ne l'ai jamais lu.
D'accord.
J'ai lu 10 pages. J'étais là, oh là là, qu'est-ce que c'est relou.
Ouais.
Mais je vais. Pardon, j'espère que j'ai offensé personne.
Ah, bah, je pense à quelques personnes quand même.
Non, mais
de
la même manière que j'ai jamais pu lire la Bible, quoi. Je n'arrive pas.
Bah oui, je comprends.
Mais pourtant, c'est que.
Normalement, on dit islam. Je crois qu'en islam, tu n'as pas le droit de toucher un Coran comme ça.
Ah bon?
Je crois.
Bah, pourquoi?
Enfin, il faut faire des ablutions d'abord. Il faut se laver les mains. Regarde ablution sur YouTube, tuto ablution.
Parce que je l'ai acheté à.
Bah oui, de toute façon, tu peux l'acheter comme ça.
Ouais, il n'y avait pas d'interdiction. On pouvait pas se laver les mains avant de l'acheter, en tout cas. Quoi.
Ouais, ils n'ont pas marqué dessus. Ils devraient. Parce que il me semble que c'est assez. Chez eux, ils aiment bien qu'on fasse les ablutions d'abord, qu'on respecte le livre sacré, quoi. Tu vois. Donc je te le dis, comme ça, tu feras tes ablutions. C'est pour toi, quoi, pour pas crever bêtement.
Et ben, merci beaucoup d'être venu sur Nouvelle École. C'est cool.
Yes.
C'est la pire manière de finir un podcast, c'est cool.
Tu m'as coupé la parole pour dire au revoir en plus, donc ça fait un peu mal.
Salut.
Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner sur iTunes ou Apple Podcast en cherchant Nouvelle École. C'est la première étape. Ensuite, vous pouvez encore plus m'aider en donnant une note au podcast, 5 étoiles de préférence. Ça se passe dans la section avis de iTunes ou de l'application podcast et ça aide beaucoup Nouvelle École. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre et ça me permet d'améliorer sans cesse le podcast. Merci à tous. Nouvelle École, c'est tous les lundis, sans faute, à 17h. À la semaine prochaine.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
it. Coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.